chaud.
Ah, ça marche pas. D'accord, t'as perdu le micro.
Faut que la flèche. Bonsoir.
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 Un nouveau podcast de Perdusa avec ce soir Tigrou.
Bonsoir.
Blacky.
Bonsoir tout le monde.
Et Jérôme, GG.
Bonjour.
On est un peu dans le stress puisqu'on a essayé cette fois-ci de mettre un générique de façon un peu artisanale, ce qui explique que les podcasts de Perdusa ne sont jamais disponibles sur iTunes puisque c'est beaucoup trop compliqué. Donc là, il faut que j'arrête des trucs. Continuez. On va discuter en gros des séries de la rentrée, vous expliquer pourquoi finalement ça sert à rien de vraiment continuer ce que vous êtes en train de regarder. Et en fin de podcast, on vous dira quelles sont les séries qui ne sont pas diffusées en ce moment à rattraper pour pouvoir les suivre quand leurs nouvelles saisons vont débuter. Sauf pour The L Word, puisque The L Word c'est terminé.
Mais on avance.
Mais il a encore temps de s'y mettre. Et donc, tu avais écrit sur ton papier, GG, qu'on allait commencer par The Good Wife. Donc, Blacky, que penses-tu de cette quatrième saison de The Good Wife? Est-ce que tu aimes l'intrigue de Kalinda et de son mari qui se jettent des œufs l'un sur l'autre pour faire des jeux érotiques?
Ah bah déjà, j'ai fait mon espèce de coming out il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, comme quoi je n'aime pas tellement Kalinda et ses intrigues en ce moment, ça n'aide pas du tout.
Ouais, j'ai vu que tu avais dit que tu pensais que Archie Panjabi était une mauvaise actrice.
Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle est mauvaise actrice ou si c'est parce qu'on lui donne pas grand chose à faire, mais pour moi, Kalinda, depuis la saison 2, elle a aucune expression faciale.
Je sais pas si c'est une mauvaise actrice, en tout cas, je l'admire beaucoup d'oser faire avec autant de dignité et d'élégance le rôle pourri qu'on lui a donné cette année où elle a quand même des scènes de jeu avec de la nourriture qui sont censées être sexy et qui ne fonctionnent pas du tout et qu'elle fait avec... c'est pas très convaincant, mais bon, elle essaye au moins, voilà.
J'ai l'impression que son intrigue, c'est un peu symptomatique du personnage, dans le sens où il faut que Kalinda, il faut qu'on la voie en train de se battre, il faut qu'on la voie énervée, il faut qu'elle soit badass, je ne sais pas trop, mais... c'est ça, c'est soit... Hey, Kalinda, on a besoin d'un renseignement, tu peux aller demander une question au voisin là-bas pour l'enquête, et puis sinon à côté de ça soit bah, c'était contre Scott Porter, il fallait qu'il y ait un clash, soit on lui ramène son mari sorti de nulle part pour qu'il y ait un clash. Est-ce que voilà, donc est-ce que on sait pas quoi faire d'autre avec elle?
Ouais, je pense que Kalinda développée en personnage un peu plus important, ça fonctionne pas tant que c'est justement l'outil scénaristique pour débloquer des situations où dans la vraie vie il faudrait 14 détectives et 6 mois pour trouver une information. Elle a sa veste en cuir et puis elle trouve l'info en 4 secondes et c'est bien, ça permet d'avancer l'épisode. Elle est marrante parce que elle est un peu lesbienne sur CBS, donc
ah bon, c'est marrant,
c'est un peu edgy, touchy sur la chaîne des vieux, c'est-à-dire la chaîne qui diffuse les séries qu'on aime. Et mais sinon, à part ça, effectivement, son personnage ne mériterait pas d'être autant développé. C'est peut-être parce que les fans de la série ont développé un amour immodéré pour le personnage que les créateurs ont décidé de le développer un peu plus. Ils n'y sont pas arrivés, mais ça n'empêche quand même pas que la série reste quand même l'une des meilleures qui est diffusée en ce moment sur les networks.
Tu vois, ça ne me dérange pas qu'il développe son personnage. C'est pas ce que je demande, qu'on la voit plus. Ou qu'on...
C'est ça.
Plus ou moins, c'est juste, j'ai l'impression qu'il se répète. Par exemple, je crois que c'était dans le dernier épisode. C'est dans celui-là où elle finit au bar avec Alisha. Elles sont, ouais, en train de boire un verre. Et limite, elles sont amies. Et je crois qu'elles ont... Alisha a dû dire quelque chose en 2 secondes sur leur amitié à un moment. Je me suis dit, mais je suis passée à côté de ça parce que j'ai l'impression que ça fait 2 ans que leur amitié grandissante... On était un peu dessus, quoi, au début de la série. J'ai eu l'impression qu'il y avait un gros gap, bon, parce qu'elle avait soi-disant couché avec son mari, mais...
Bah, c'est pas soi-disant.
Enfin, oui, enfin... Parce qu'elle a couché avec son mari, excuse-moi.
Ça, c'était plutôt chouette comme développement, mais... comme développement du personnage.
Ouais, mais justement, moi, j'ai l'impression que le personnage, il était vraiment... Visiblement, il l'avait pensé dès le début, un peu pour ça. Mm. Ensuite, ils ont prolongé le truc, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils ont amené ce rebondissement sur le personnage qui, en fait, avait couché avec le mari d'Alicia, Bah, je pense qu'ils ne savaient plus trop quoi en faire. Et c'est vrai que bon, ils ont un peu fait, ils les ont fait se réconcilier, c'était sympathique. Mais derrière ça, le personnage n'a pas vraiment, à part son, dans le contexte professionnel, c'est un personnage qui est effectivement utile parce qu'il débloque des situations et qu'il est plutôt bien utilisé. Mais c'est vrai que développer sa vie personnelle, ça ne marche pas. J'ai l'impression que les scénaristes ne sont pas à l'aise, en fait, qu'ils ne comprennent pas leur... Enfin, qu'ils arrivent très bien à nous raconter la vie d'une avocate un peu bourgeoise de 45 ans qui se sépare de son mari, mais que la détective privée lesbienne qui sort avec un dealer de drogue, c'est du cliché. Enfin,
c'est le symptôme un peu des séries pas traditionnelles, mais des séries banales de CBS comme Le Mentaliste ou NCIS, où il y a les personnages qui sont censés être badass, comme dans Castle, les gars qui sont les anciens de la Navy, etc. Et ça marche jamais dans ce genre de série, bah parce que non, il reste quand même des personnages hyper mal écrits dans des séries pourries. Et donc, ils n'auront pas le côté incroyable, méchant, comme le héros de Breaking Bad, là,
Walter.
Voilà, Walter, ils ne seront jamais ces personnages badass, comme tu dis, ça peut pas fonctionner dans ce genre de série. Effectivement, dans The Good Wife, qui est quand même d'une qualité supérieure à NCIS ou au Mentalist, dont j'ai vu beaucoup d'épisodes.
Ouais, mais t'as raison.
Ça marche pas.
Je pense aussi que The Good Wife, l'intérêt, c'est justement que les autres personnages sont tous des personnages qui sont assez fins, mais qui finalement sont rarement très excessifs. Et justement, ce qu'on aime bien, c'est que c'est toujours des... Enfin, c'est vraiment le portrait qui est fait tout en contraste. Alors que Kalinda, on est très vite, mais même avant, on est tout de suite dans l'excès parce que c'est le personnage qui est censé être cool en toutes circonstances. Et donc, forcément, son mari, dealer de drogue, la retrouve pour l'assassiner. Ben, ça se transforme en scène de sexe un peu bizarre parce que Kalinda prend tout avec froideur et en étant un personnage assez cool, enfin, qui se veut assez cool, mais qui finalement... On se retrouve souvent un peu caricatural.
Oui, parce que
là, c'est très criant.
Kalinda, c'est un peu quand le personnage, c'est comme les adultes qui veulent être cool comme leurs enfants, c'est-à-dire que bon, bah, ils ont beau essayer, ils ont tous les attraits, etc. Ils disent les mêmes choses, mais sauf que ça marche pas.
Là, elle est plus froide que cool. Et le problème, c'est que moi, en tant que spectatrice, je suis froide aussi par rapport à elle. Elle me laisse un peu indifférente. À la rigueur, un personnage comme Carrie, j'ai eu l'impression qu'à un moment, ils essayaient de développer quelque chose avec lui, puis après, ils se sont dit, bon, bah, c'est pas grave, on va l'amener à petite dose. Ça marche très bien. Là, on a vu son père, on l'a vu brièvement, ça nous a appris des choses sur Carrie, mais on n'a pas trop insisté, par petites touches, je trouve ça beaucoup plus subtil.
Mais parce que je pense que Carrie, les scénaristes te laissent te faire ta propre opinion, en fait. C'est-à-dire que tu peux l'aimer ou pas, tu peux le trouver cool ou tu peux trouver qu'il est arriviste, mais ils n'essayent pas de t'imposer un truc, alors que Kalinda, ils essayent de t'imposer que vraiment, c'est le personnage super cool de la série.
C'est le personnage hors norme.
Et c'est marrant, parce que tu parlais de Walter White dans Breaking Bad, et je trouve qu'ils ont un peu fait la même chose dans les dernières saisons de Breaking Bad avec leur personnage, en mode, ça y est, il est devenu super cool, ouais. Et du coup, vraiment, il est méchant, mais regardez qu'est-ce qu'il est cool dès qu'il fait un truc, il est trop chapeau, intelligent, il a un chapeau, et les personnages... C'est un peu, on se retrouve un peu avec des scénaristes qui, comme ils ont des fans de leurs personnages, eux-mêmes se mettent à les idéaliser un peu et à essayer de les mettre tout le temps dans des situations où ils ont le dessus et où ils sont très, où finalement ils sont plus très réalistes.
Donc voilà, ça c'est la façon de Perdusa de vous dire que c'est la meilleure série qui est diffusée en ce moment, c'est-à-dire qu'on se focalise depuis 10 minutes sur un minuscule défaut.
Mais le reste est très bien, effectivement.
Voilà, le reste,
il est incroyable. Enfin, moi, je suis tellement fan des intrigues de la semaine. Il pourrait ne pas y avoir de développement de personnages à côté. Ça resterait quand même une série incroyable. Enfin, juste ce qu'ils ont fait avec les deux derniers procès. Celui sur même pas sur le mariage homosexuel. C'était sur le fait que le mariage homosexuel aux États-Unis... ne donne pas droit au même droit.
Il n'est pas reconnu selon les États. Effectivement, il ne protège pas contre la...
Contre
en cas de procès, il ne protège pas de la même façon.
Et la façon dont ils utilisent ça pendant 40 minutes, où il y a des rebondissements, hein, c'est juste des rebondissements juridiques, je ne sais même pas si c'est vrai ou pas, si ça pourrait se produire ou pas dans la réalité, mais c'est juste tellement bien fait, comme l'épisode le dernier, où il y a deux procès en même temps sur la même affaire, et pour ça, pour être avantagé dans le procès qui a lieu à Chicago, les avocats et les gens du district attorney vont aider la partie adverse dans le bled d'à côté. C'était à mourir de rire, c'est vraiment bien fait jusqu'à la fin. Et voilà, qu'il y ait Kalinda 5 minutes, qu'il fasse n'importe quoi avec des glaces.
Oui, c'est pas grave.
Et en plus, bon bah voilà, je pense que c'est terminé cette histoire avec son mari.
Je crois qu'ils se sont très vite rendus compte que les gens ne l'appréciaient pas trop et qu'ils ont un peu. Mais enfin, c'est vrai que moi, pour le coup, je trouve que cette saison est quand même un peu en dessous des précédentes parce qu'au niveau des personnages, il se passe des trucs, mais on sent qu'ils n'ont plus grand-chose à raconter. La campagne de Peter, on s'en fout un peu. Enfin, tout ce qui se passe dans la vie des personnages, c'est pas, il se passe plus grand-chose qui me passionne. Par contre, ils compensent effectivement avec des procès où, pour le coup, il y a toujours quelque chose d'original dedans et c'est toujours très réussi et très bien géré jusqu'au bout. Et je trouve ça plutôt sympa d'avoir une série qui finalement repose sur son gimmick plutôt que sur des rebondissements qu'on aurait un peu déjà vus ou qui seraient un peu usés jusqu'à la corde sur la vie privée de ses personnages.
Moi, c'est vrai, je me suis fait là tout le début de la saison à toute vitesse, en accéléré. Et je me rends vraiment plus compte de l'originalité qu'ils essayent de mettre dans la façon de raconter leur procès. Comme tu viens de dire, le fait qu'il y en ait un autre dans un autre état, etc. Parce que je trouve que de temps en temps, ils tombent deux, trois fois par an, ils tombent dans la facilité, à la law and order, à reprendre
je
quelque
te
chose.
Pardon.
Non, mais dans le fait de reprendre un fait divers.
Oui.
C'est seulement récemment que je me suis aperçue qu'en saison 3, ils avaient fait un copier-coller de l'affaire de West Memphis. J'avais parlé,
c'est quoi l'affaire de West Memphis?
J'avais parlé du documentaire, des documentaires Paradise Lost.
Mm-hmm.
Un procès qui a duré 20 ans en Arkansas.
En saison 3
Ils ont repris cette histoire-là avec trois adolescentes, parce que quand même, il y avait le dernier documentaire d'HBO qui est sorti en début d'année, ouais. Et ensuite, il y a eu un autre film sorti aux États-Unis. Trois mois plus tard, The Good Wife nous fait une histoire à peu près en parallèle, qui ressemble beaucoup, avec trois adolescentes accusées d'avoir tué une autre adolescente. Et puis il y a un Alford Plea, enfin.
Un quoi?
Un Alford Plea, c'est quand en fait tu dois. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire, hein, c'est ce qui s'est passé pour eux.
À New York.
C'est-à-dire que.
Maîtrise Blackie. Hein.
Oui, il n'y a que ce truc-là que je sais. tu déclares que tu es coupable. Mais tu as le droit de sortir parce que tu as déjà fait ton temps.
Ah oui,
effectivement,
oui, d'accord, ça.
Les personnages disaient oui, mais c'est soit je mens et je dis que je suis coupable et je peux enfin sortir, soit je maintiens que je suis innocente et on me laisse en prison. C'était le même problème que
ouais,
les dû faire.
Maintenant, je me rappelle à peu près de cet épisode et moi j'avais trouvé, ne connaissant pas l'affaire ou quoi
que
ce soit.
Non, mais aux États-Unis, c'était un gros truc à ce moment-là.
Mais oui, mais si ça sert l'intrigue de la semaine pour qu'il y ait un joli rebondissement juridique.
C'est comme le gars à la Facebook, des choses comme ça de temps en temps.
Ils prennent Facebook ou Google, souvent je trouve ça un peu trop transparent.
Moi je trouve ça vachement chouette que. C'est vraiment la seule série en ce moment qui.
Qui ose parler de ça.
Je sais pas, en tout cas qui en parle, qui parle de la révolution numérique. Qui parle de Google, des réseaux sociaux, du fait que ça induit plein de nouveaux types de problèmes. Globalement, les séries, j'ai l'impression qu'elles sont en train d'ignorer cette entre guillemets, révolution numérique. Et The Good Wife, effectivement, je pense que dans 5 ans, ça aura l'air un peu daté quand ils feront ça, mais au moins, ils prennent à bras le corps des problématiques de l'ère du temps. J'aime vraiment beaucoup. Et Alicia, que j'avais un peu de mal avec son côté un peu rigide, grosse bourgeoise. Mais je trouve qu'il l'utilise vraiment bien. Et effectivement, elle a envie que sa fille... Dans le dernier épisode, quand elle demande à sa fille d'être une good girl, je trouve que c'est vraiment, de la part des scénaristes, un sublime clin d'œil à leur titre, à leur spectateur, au côté coincé de... Juste à côté de ça, quand elle écrit sexe sur l'ordinateur, moi j'étais mort de rire.
Non, c'est vrai. Et c'est vrai que The Good Wife, c'est une série, pour le coup, où le personnage principal est sans doute... Enfin, pour moi, c'est sans doute le meilleur personnage. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais en tout cas, ce n'est pas une série qui repose sur un personnage principal un peu fadasse, qui est entouré de personnages secondaires qui, parce qu'on les voit moins, sont tous savoureux. Et là, vraiment, ils explorent et ils montrent en profondeur leur personnage. Et ça fonctionne parce que ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on aime à tout moment. Mais on a plaisir à la suivre et à la...
Et ça fait 4 saisons, elle n'a pas changé de personnalité... Parce qu'ils n'avaient plus rien à dire, ils continuent à explorer le développement de la vie de cette femme-là dans ces situations.
Ah oui, j'ai adoré à Thanksgiving, sa mère et sa belle-mère l'énervent. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son mari dans la chambre, c'est « allons-y ». Elle m'énerve, allons baiser à côté.
Bon, je ne sais pas si on aura le droit à une saison 5.
Ça a l'air mal. Ah non, elle est déjà syndiquée la série ou pas?
Je sais pas, ça marche pas très très bien.
Et les critiques sont moins bonnes surtout. Parce que la série était un peu sauvée par les critiques, j'ai l'impression.
C'est là. Faut espérer. Enfin, on verra bien. Ouais. Puisque de toute façon, on a plein d'autres séries à vous proposer qui sont vraiment exceptionnelles à regarder. Mais en attendant, on va discuter d'une autre série qu'on regarde ensemble. Happy Endings, qui était l'une des comédies préférées de la rédaction de Perdusa ces 2 dernières années, et qui, avec cette saison 3, se révèle être Blackie.
Moi, j'aime bien.
J'attendais que tu dises que c'était une catastrophe.
Non, excuse-moi, non.
Non, vas-y, tu développes ton avis quand même.
Non, il y a des épisodes meilleurs que d'autres, comme d'habitude, mais je trouve que quand la série... quand un épisode est bon, il est vraiment très bon. J'ai envie de le regarder 4 fois de suite. L'épisode de Thanksgiving était absolument parfait, chaque dialogue, même Dave était drôle. Non, pour moi ça marche toujours, j'aime toujours les personnages, ils me font toujours rire, donc c'est pas moi qui vais dire qu'il y en a du mal de ça.
Je suis assez d'accord avec toi, et en même temps la contrepartie c'est qu'effectivement quand les épisodes sont bons, ils sont très drôles, ils sont très réussis, mais quand les épisodes sont pas bons, c'est vraiment, je m'ennuie pendant 20 minutes, il n'y a rien qui pour moi sauve la série... quand ça prend pas, et je trouve que c'est quand même un peu un épisode sur deux cette année, c'est vraiment c'est ennuyeux et il n'y a rien de, je peux me raccrocher à rien parce que les personnages sont pas si ils sont tous assez caricaturaux, donc quand ils sont pas drôles ça...
Le truc c'est ça c'est que pas. Happy Endings arrive à ses limites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnages, ils n'ont pas réussi à développer des personnages sympathiques, on est juste content de les voir, en fait, ils n'existent pas. Ils existent que dans leur excès ou quand ils font n'importe quoi. Ils se tapent la tête contre les murs
comme la majorité des personnages de comédie.
Eh bien, au contraire, par exemple,
la majorité.
New Girl, qui est ma nouvelle obsession du moment, et Jules sera d'accord avec moi puisque c'est grâce à lui que j'ai
fait. Oui, mais Drum sera d'accord avec moi.
Mais Drum a complètement tort, apparemment.
Drum m'a dit de dire que c'est nul.
Ah, sauf que... Alors, peut-être que... mon rejet d'Happy Ending cette année vient de ma nouvelle passion pour New Girl, mais justement New Girl, la première chose au bout de 10-12 épisodes, tu deviens vraiment attaché au personnage, juste et content de les voir. Après, ce qui est bien, c'est qu'en plus ils sont drôles quasiment tout le temps, mais les personnages existent, ils changent pas de personnalité en fonction des intrigues pour être plus drôles, ils ont tous une personnalité très bien définie. Ça met un peu de temps à se mettre en place parce qu'au départ c'était la série de Zooey Deschanel, donc les 5-6 premiers épisodes sont centrés sur elle, puis ensuite ils ont décidé de développer un autre personnage, un des 3 autres colocataires masculins qui est Schmidt, et puis au final au bout de 12 épisodes ils se disent que en tout cas ils trouvent un équilibre et ces 4 personnages fonctionnent très bien ensemble. La moitié des épisodes se passent juste dans leur appart, et en gros, ils disent des trucs drôles, mais avec une personnalité attachante. Enfin, c'est la série moi, qui me fait le plus rire en ce moment, avec ce côté en plus d'Happy Endings quand c'est drôle, c'est-à-dire que bon, quand il y a 5 minutes de flottement où ils ne sont pas hilarants, et c'est quand même très agréable de les voir interagir ensemble, de les voir exister à l'écran. Maintenant, je suis juste content, c'est terrible là, mais je suis juste content de les voir sur mon écran. Je dis, c'est les gens de New Girl et ils ils ont réussi à développer 4 personnages dans une comédie qui ne repose pas uniquement sur le fait d'être drôle, mais qui sont drôles en permanence. Oh là là, c'était cool.
Merci. Moi, je suis assez impatient de revoir Cougarton. Je ne sais pas si ça reprend, d'ailleurs, ça a été annulé, je n'ai pas trop compris. Mais,
je crois que ça va reprendre.
Ça a changé de chaîne.
Ça a changé de chaîne.
Mais parce que Cougarton, effectivement... Au même moment où tout le monde s'extasiait sur Community, qui effectivement pouvait être très drôle par moments, c'était la sitcom où même dans les épisodes un peu plus faiblards, je regardais avec plaisir parce que j'aimais bien les personnages, j'étais content de les retrouver. Et c'est vrai que Happy Endings, à un moment j'ai cru qu'ils allaient faire quelque chose comme ça parce qu'au début, je trouve qu'ils allaient beaucoup plus dans, ils marchaient beaucoup plus dans les pas de Friends, à essayer de développer quand même des personnages attachants et finalement maintenant ils sont dans l'excès permanent, dans le délire permanent.
Ah bah maintenant c'est délirant. Enfin oui, c'est ça, c'est l'adjectif qui correspond, c'est ça. Délirant, sauf
ça
que
et ça fonctionne des
quand ça marche, c'est drôle, et quand ça marche pas, c'est juste pénible. Enfin, c'est le dernier épisode qui a été diffusé cette semaine, c'est abominable ce qui se passe avec
Penny.
Non, le gros gay, le
Max
et...
Et Dave.
Et cette histoire de poignée de main, là, ou je sais pas quoi. Mais c'est infernal. Et à côté de ça, on a une histoire où il y a un personnage qui est forcé de porter un casque parce qu'elle se tape la tête contre les murs tout le temps. Mais ça pourrait être drôle, en fait. Enfin, oui, bien traité, ça pourrait être drôle. Mais là, c'est juste nul.
Bah, tu vois, toi, ce que tu arrives à faire passer avec New Girl, puisque tu les trouves attachants, bah moi ça passe avec Happy Endings. Moi j'aime les personnages, donc même quand c'est un peu faible, Penny avec son casque c'était un peu faible, mais comme j'aime beaucoup, et ben, ça aide. Et puis à côté il y avait Jane et son mari qui étaient très drôles, donc ça donne un équilibre.
Je peux plus les supporter moi. Enfin, je veux bien croire qu'ils sont drôles un épisode sur 10, mais c'est vraiment, j'ai envie d'accélérer quand ils apparaissent à l'écran, même dans un bon épisode, ils ont toujours les mêmes intrigues, ils sont... Tous les deux, pour le coup, ultra caricaturaux, un peu antipathiques.
Non, mais de toute façon, j'ai compris ce soir, dans ce podcast, vous avez décidé de dire tout l'inverse de ce que je vais dire.
Non, non, sur Arrow, on va aussi dire que c'était un super pilote.
Il n'y a pas une analyse à faire sur le fait que les séries avec les titres les plus pourris, finalement, donnent des bonnes séries? Parce que tu dis de New Girl, c'est un titre à la con.
Et, alors, et clairement, la série, en plus, maintenant, ils auraient dû la rebaptiser. Ben, c'est comme Cougarton, ils auraient dû la rebaptiser Roommates ou The New Friends. Ou, mais effectivement, alors, c'est plus du tout New Girl, c'est juste 4 colocataires.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de séries en ce moment qu'on aime bien, et quand on regarde le pilote ou le titre, ils ont complètement changé de... Enfin, c'est comme s'ils avaient voulu vendre un concept à une chaîne... en disant, mais regardez, on va faire un truc un peu original, puis au bout de 2 épisodes, ils ont essayé de faire un truc un peu plus classique, et ça marche vachement mieux. Parce que Happy Endings, pour le coup, qu'on vient de critiquer, cela dit, c'est pareil, le premier épisode lance une série qui, finalement, est juste une copie de Friends, et qui n'a rien à voir avec son pilote.
Tout comme New Girl, effectivement, qui est censé être un énorme véhicule pour Zoé Deschanel, qui chanterait, serait adorable, parce que... elle porte des lunettes et qu'elle tombe, parce qu'elle a une tendance à tomber aussi beaucoup. Et c'est ça, au bout de 12 épisodes, c'est une série sur 4 amis. Voilà, ça n'a plus rien à voir avec... elle est un peu... Corky ou je sais pas quoi, là. Non, Corky, ça veut dire...
La manique Pixie Dream.
Ouais, je sais pas quoi, là.
Oui, c'est-à-dire, elle tombe tout le temps, elle dit... elle convainc des mecs de démissionner de leur boulot et elle leur fait voir la vraie vie, c'est ça?
Même pas, mais en plus, on s'intéresse plus trop à elle. Enfin, elle est, elle a 25% d'antenne. Enfin, ça suffit. C'est vraiment, pour le coup, il faut suivre ce qu'a dit Jus. Pour une fois, il a raison.
Oui, mais alors, moi qui ne regarde pas, faudrait que je me mette à regarder à partir de quand, de la saison 2.
Non, à partir. Mais lis ce qu'écrit Jus sur le forum. Il a dit. Il a dit qu'il faut regarder à partir du 12e épisode de la saison 1. Moi, j'ai suivi exactement. J'ai regardé le 12e, le 13e, jusqu'à la saison 2. Et quand il n'y a plus d'inédit, j'ai recommencé au tout début. J'ai regardé le pilote, que j'avais détesté au dernier degré. Quand je l'avais regardé, ben, je pense que aussi j'étais décidé à le détester. Mais Zoé Deschanel était abominable. Là, même dans le pilote, je dis, oh, quand même, elle est marrante et tout. Le pilote n'est pas si insupportable que ça. Et j'ai regardé avec plaisir les 11 suivants, sachant qu'effectivement, ils sont quand même plus faibles. puisque c'est plus déséquilibré, ils mettent un petit peu de temps, mais Drum nous a toujours expliqué que les comédies, ça mettait un peu de temps à trouver son équilibre. Et au bout du 12e, voilà, j'ai même regardé le 12e, le 13e, et les épisodes que j'ai déjà vus deux ou trois. Voilà, est-ce que Revenge, qui a un titre tout pourri aussi, est-ce que alors ça a donné vraiment une très très bonne saison 2 ? Revenge qui est diffusé en face de The Good Wife le dimanche et qui fait quand même plus d'audience que The Good Wife.
Oui, bah non, c'est vraiment nul à chier. Enfin, il n'y a rien à sauver dans la série, ça n'a aucun sens. Autant l'année dernière, la série était... on appréciait parce que sur un point de départ ultra classique où on s'attendait à revoir des choses... Enfin, on s'attendait à tout deviner, la série arrivait à être un petit peu originale et à nous surprendre et à utiliser des clichés d'une manière qui était assez plaisante. Autant cette année, c'est nul. Enfin, en fait, on s'ennuie, ce qui est un peu dommage devant un soap. Mais ils ont complètement raté la transition. Enfin, on sent qu'ils n'avaient pas de quoi faire une saison 2 et qu'ils n'ont pas trouvé et qu'ils rajoutent des piles d'intrigues par-dessus leur histoire de départ sans que ça prenne, sans que ça intéresse en fait.
On sent qu'ils ont peur de casser la formule de la saison 1. C'est un peu comme Desperate Housewives qui... voilà, maintenant Revenge ne peut exister qu'en étant un gros soap normal. Mais ils n'arrivent pas à abandonner cette idée de vengeance et cette idée de plan machiavélique qui se révélera dans 10 épisodes. Moi, il y a la musique qui me fatigue énormément, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, il y a une armée de violons et de contrebasses qui vont nous dire « Oh là là, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, on a l'impression qu'il y a 14 zombies qui vont arriver ». Et en fait, il y a juste un type qui va voter contre la présidence de telle entreprise. Ben c'est dommage, je pense que ça ferait un bon saut, puisqu'ils ont des personnages suffisamment bien définis pour que ça fonctionne à peu près. Mais là, on sent vraiment qu'ils ne savent pas quoi faire avec leur série.
Ouais. Mais surtout, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a plein de choses qu'ils pouvaient faire en saison 2 qui étaient des trucs ultra classiques, vus et revus dans les soaps, mais qui auraient été sympas. Et notamment, moi, je pensais que la saison 2, on allait découvrir bon, que la mère était super méchante, et c'est pas spécialement original, mais ça aurait pu être bien. Et que du coup, comment s'appelle l'héroïne, Emily ou Amanda, selon, elle allait devoir s'allier à Madeleine Stowe contre une plus méchante. Et finalement, on avait envie de voir ça, l'héroïne qui se retrouve alliée à sa pire ennemie contre un ennemi plus grand encore. Et en fait, non, ils se contentent de faire des redites des intrigues de la saison précédente, sauf que ça n'a plus vraiment lieu d'être et que ça n'a plus de sens. Et du coup, on se retrouve avec avec quelque chose d'assez ennuyeux et convenu.
Désolé, Tigrou.
Tu es un tout petit peu perturbé parce qu'on amène une bouteille d'alcool fort à Blackie.
J'ai essayé de me faire boire quelque chose.
C'est du Jägermeister.
Je croyais que tu voulais me faire un Cosmo.
Si, on va faire ça. Et alors,
Attends, juste une chose sur Revenge. Est-ce que tu as une théorie sur l'identité des gens qui vont exploser dans le bateau ? Puisque le début de la saison, on voit un fanfare avec un bateau qui explose et du coup on voit un bras qui flotte ou quelque chose comme ça, donc il y a quelqu'un qui meurt.
Et le bateau, c'est le Amanda de... Non, effectivement. J'ai même pas réfléchi. Bon. T'as une théorie.
Au départ, je pensais que ça allait être l'anglais, mais finalement, comme ils ont un tout petit peu développé le personnage, je pense que ça va être le père de Teen Wolf, le loup-garou.
Tu vois, c'est un des deux frangins.
Je pense que ça va être à ce niveau-là, un personnage qu'on aura vu pendant 30 minutes à l'épisode d'avant.
Ouais, parce que quand même, il y a le père de la fille.
Il y a plein de purs acteurs de série. Il y a le père de la fille d'Antin Wolf, il y a la meuf de Greek.
Oui.
Qui vient. Et il y a un.
C'est quoi son ethnicité à la meuf de Greek?
Je ne sais pas si elle est indienne ou latina. Elle joue toujours une latina, mais en fait, je crois qu'elle est indienne. Je ne suis pas sûr.
Ah bah, comme dans New Girl, Sissi. Au début, je croyais que c'était une métisse black, en fait, elle est indienne. Mais c'est l'occasion de blagues avec Schmidt et tout, mais comme vous ne regardez pas. Tous les trois, on regarde aussi The Vampire Diaries, qui a été très très haut dans les classements de Perdusa et qui a jeté l'opprobre sur notre légitimité à discuter des séries télé, puisque ce n'était ni Game of Thrones, ni Breaking Bad, ni Battlestar Galactica qui était numéro 1 à cette époque-là, mais Vampire Diaries. Alors, est-ce qu'en quatrième saison, on signe et on persiste en disant que c'est l'une des meilleures séries qu'il y a actuellement à la télévision ? La réponse là qui est...
Eh oui, moi, la plus fervente admiratrice. Non, c'est faible, cette saison. C'est très, très faible. Là, ça s'est enfoncé vraiment dans le gros n'importe quoi. Ça a toujours été divertissant, hein. Ça n'a jamais été une série à prendre extrêmement au sérieux, mais jusque-là, il maîtrisait assez ce qu'il faisait. Là, bon, tant pis, on va plus ou moins spoiler, mais depuis qu'Elena... Enfin oui, forcément. Mais donc, Elena est vampire cette année. Moi, déjà, ça me pose problème parce qu'il n'y a quasiment plus d'humains, à part le petit orphelin mal nourri, là, Matt. Il n'y a plus d'humains, tout le monde est un vampire dans cette ville. Ça a été très long, je trouve, à amener la nouvelle intrigue de la saison. Ça commence un petit peu à démarrer parce que depuis que le chasseur, là, celui avec son tatouage, je ne voyais pas trop où il voulait en venir avec. Donc effectivement, là maintenant que c'est amené à Jérémy, le petit frère inutile jusqu'à maintenant, c'est un peu plus intéressant. Mais j'ai vachement mal à m'exprimer. Vas-y, Thierry.
Non, mais alors, tu vas dire que je le fais exprès parce que je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que bizarrement... Alors moi, le Vampire Diaries, j'avais beaucoup aimé les deux premières saisons, enfin la première surtout, la deuxième était très bien, mais je trouve que c'est une série qui souvent, elle démarre un peu ses saisons en fanfare, avec il se passe plein de trucs, ils ont une ce qu'on va appeler une mythologie qui est assez dense, des intrigues pleines de rebondissements, et puis au bout de 10 épisodes, ils sont allés tellement vite qu'il leur reste plus grand chose à raconter, et ça commence un peu à pédaler dans la semoule, et on s'ennuie un peu jusqu'à la fin. Cette année... Je trouve qu'après une saison 3 qui finalement était assez chiante et assez ratée, ce qui m'intéresse, c'est que justement, ils se ressentent sur les personnages et sur ce qui, qu'on l'aime ou pas, fait l'intérêt de la série, c'est-à-dire le triangle amoureux entre une lycéenne qui est amoureuse de deux frères vampires. Et ça, je trouve qu'ils le traitent assez bien et qu'ils prennent leur temps pour une fois pour traiter les choses, et je trouve ça assez sympa. Par contre, leur intrigue sur potentiellement on peut guérir les vampires, mais il y a un tatouage qui grandit ou autre, ça m'intéresse. Enfin, c'est pas nul, mais ça, j'en ai un peu rien à foutre. Enfin, c'est vraiment pour moi une excuse pour faire un peu évoluer les personnages et justifier la présence de certains personnages dans la série. Mais pour le coup, je trouve que c'est plus sobre et plus resserré que l'année dernière, et ça me va assez bien qu'ils aient recentré sur finalement les trois personnages un peu intéressants de la série, en mettant de côté les loups-garous ou les enfin d'autres personnages qui m'intéressaient beaucoup moins.
Je trouve pas tellement qu'ils prennent leur temps sur le triangle amoureux, je trouve qu'ils font que se recycler. Elle finit par bien aimer Damon, et puis après elle va retomber dans les bras de Stéphane. Puis après, elle l'assumait, mais non, en fait, c'est parce qu'elle a été.
Mais je suis pas d'accord.
C'est son sailleur, ou je ne sais quoi, et c'est pénible, et c'est toujours, il faut la sauver, et on ne pense qu'à elle, et on va tuer 35 types à côté, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on l'aime, et qu'elle est la plus importante du monde. Moi, oui, depuis 4 ans, ça commence à.
Ça, c'est vrai, mais ça, c'est comme ça depuis le début de la série.
Ouais, mais là, ça fait 4 ans.
C'est un peu. Voilà. Mais pour le coup, moi, je trouve que. À la fin de la saison 3, j'avais été assez emballé par le cliffhanger parce que je me disais, ils ont réussi à résoudre finalement leur triangle amoureux sans tuer la série, puisqu'ils le font repartir à zéro en changeant la personnalité un petit peu de l'héroïne. Et là, pour l'instant, je trouve que ça... Je dis pas que c'est génial, je dis pas que c'est hyper intelligent, mais pour moi, ça fonctionne assez bien. Et en plus, j'aime beaucoup l'actrice qui joue l'héroïne, Elena. Ouais. Je trouve qu'elle est... Elle peut être bonne dans plusieurs rôles différents, et du coup, là, la faire changer un petit peu, faire un peu évoluer son rôle, c'est plutôt intéressant. Et je trouve ça tout à fait plaisant à regarder, et beaucoup moins chiant que l'année dernière, où on avait 15 000 histoires sur les premiers vampires, où il y en avait 5, et puis ils avaient des plans qui changeaient tous les deux épisodes, puis c'était gentil, puis méchant, puis gentil, puis méchant, puis ça changeait sans arrêt. Là, au moins, cette année, ils assument un peu plus la dimension soap de la série. Et je trouve que ça fonctionne assez bien.
Justement, enfin, je suis d'accord que ça s'était très très mal fini sur la seconde partie de la saison, avec les originaux. Mais au moins, tu sentais un thème, tu sentais un truc qu'ils essayaient de développer sur la saison. Comme la saison avant, tu avais la saison des loups-garous. Là, il y a eu Klaus, apparemment, a été devenu très populaire. Donc, ils ont décidé de le garder dans l'univers. Alors, il est méchant, mais pas vraiment. Et puis, on lui colle une histoire maintenant toute naze avec Caroline, qui est toujours amoureuse de l'autre loup-garou. J'ai l'impression que c'est vraiment du réchauffé, que je l'ai trop subi trop longtemps, ces deux-là. On essaie de nous garder des anciens personnages et de les laisser là de force. Et j'ai un peu envie de quelque chose de neuf. Au moins, cette histoire de cinq combattants, chasseurs de vampires. Ah oui, au moins, je me dis, bon, bah, si c'est le thème de la saison et qu'ils arrivent à bien le développer, parce que là, je m'y attendais pas, du fait que ça passe au petit frère, le fait que le petit frère, finalement, bah, se mette à se détester et à être un danger pour sa propre sœur, je me suis dit, au moins, ils essaient de trouver autre chose et peut-être qu'ils vont nous sortir une histoire un peu différente cette année, parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait un autre thème, quelque chose de neuf qui se dégageait cette saison.
Oui, mais en même temps, pour moi, si la série reposait là-dessus, c'est un peu pourri quand même comme intrigue. Il y a cinq personnes qui ont des tatouages qui grandissent. En fait, c'est un peu horrible parce qu'on trouve tous les deux des qualités à la série, mais quand on parle ensemble, on dit que c'est vraiment de la merde. Mais non, moi, c'est vraiment. Moi, je trouve que pour le coup, Vampire Diaries, c'est une série qui n'a pas toujours réussi à bien gérer. Elle a toujours réussi à assez bien gérer ses trois personnages principaux et tous les autres, effectivement, partent un peu dans tous les sens. Et effectivement, l'histoire d'amour entre la blonde et le super méchant qui, finalement, il devient gentil parce que ça les arrange bien d'avoir une histoire amoureuse à faire là-dessus, ça n'a aucun sens. C'est pas désagréable à regarder, mais en même temps, d'un épisode à l'autre, les personnages ont changé de personnalité. Mais du coup, je trouve que voilà, ils ont trois personnages qui fonctionnent assez bien et ils ont resserré là-dessus. C'est vraiment un divertissement, il y a rien au-delà, mais c'est sympathique.
Peut-être que chacun on y trouve un compte différent. C'est vrai que avec les originaux, j'avais aimé le fait qu'ils nous apprennent au fur et à mesure une autre légende, quelque chose d'original. C'est vrai que le thème du vampire, c'est tellement recyclé. On attend d'avoir quelque chose de neuf sur l'origine des vampires. Là, sur les chasseurs de vampires, on ne peut rien avoir de très original là-dessus, et puis finalement ils vont nous faire la même chose, ils vont nous trouver notre histoire, qui sont ces cinq là, peut-être qu'ils vont trouver quelque chose de passionnant à dire là-dessus, j'en sais rien, peut-être pas, mais j'ai envie d'avoir la surprise, j'ai envie de voir ce qu'ils trouvent à inventer là-dessus.
Je pense que si j'apprécie plus la série que toi, c'est que j'attends pas du tout de résolution sur cette histoire de chasseur, j'attends juste de savoir si Elena va vraiment coucher avec Damon ou si elle va finir avec son frère, et que ça, c'est effectivement la promesse de la série qui, pour l'instant, est plus ou moins tenue.
Moi, pour l'instant, je trouve qu'il y a quand même un petit passage à vide, parce que je trouve que la transition Elena-vampire, en tout cas pour moi, elle marche pas du tout, puisque j'arrive pas à intégrer qu'Elena est un vampire. J'avais trouvé ça vraiment très chouette comme cliffhanger, mais je sais pas, c'est un paradigme tellement différent que mon cerveau alors accroche pas du tout au fait que Elena c'est un vampire, et à chaque fois que je la vois, c'est, ah tiens, c'est Elena, tout ça, et il se passe 5 minutes et puis après on m'explique que vraiment c'est trop dur qu'elle soit un vampire, et je dis, ah oui c'est vrai, il faut qu'on me rappelle toujours que c'est un vampire, j'arrive pas à l'intégrer. Autant pour le Caroline, ça avait été la transition avait été assez simple, puisque de toute façon c'était un personnage qui avait pas d'intérêt quand elle était humaine. Qu'elle devienne vampire, ça donnait enfin un sens à son personnage. Là, avec Elena vampire, j'ai toujours pas intégré le fait qu'elle soit un vampire, donc j'ai pas l'impression que ce soit si bien écrit que ça, cette transition. Mais ce qui me plaît quand même, et ce qui me donne espoir, c'est que, bah, effectivement, ils se débarrassent pas de leur personnage. Ce qui est bien dans Vampire Diaries, c'est qu'en gros, c'est une série télé à la fois à l'ancienne et avec un rythme moderne, c'est-à-dire qu'on garde tout le monde, et puis on essaye de construire des histoires qui permettent d'intégrer tout le monde. Et on va pas aller chercher, comme dans Desperate Housewives chaque saison, des nouveaux méchants, des nouveaux machins, pour continuer les mystères de la série. Mais là, effectivement, il y a un petit passage à vide, mais en général, la série retombe sur ses pattes assez... C'est bien. je m'ennuie un petit peu, mais enfin, ça reste un divertissement de qualité.
C'est un petit peu dommage que le fait qu'elle soit vampire, ça se résume un peu à Stéphane qui nous répète 10 fois par épisode que ses sentiments sont intensifiés.
Là, vous êtes quand même vraiment de mauvaise foi, parce que dans chaque épisode, il s'attarde sur le fait qu'elle est un vampire et qu'elle
tue des gens, elle doit boire du sang.
Non, c'est pas sur ses sentiments, c'est sur
ses émotions.
On ne peut pas oublier qu'elle est un vampire, c'est pas comme les bébés dans les séries télé qui naissent dans un épisode, on les voit 2 épisodes après et ensuite ils réapparaissent jamais. Là, c'est quelque chose qui est très présent. Après, effectivement, on peut trouver que c'est pas. Que ça apporte pas grand chose ou que ça c'est pas suffisant pour construire la saison dessus, ça j'entends. Mais moi, mon seul regret, c'est qu'en fait, on voit plus du coup, depuis qu'elle est vampire, on voit plus.
La sorcière
la sorcière me manque pas spécialement. Moi, je pensais qu'en devenant vampire, elle allait peut-être devenir un peu. Enfin, elle allait avoir une personnalité un peu plus limite que celle qu'elle a pour l'instant. Peut-être que c'est des choses qu'ils veulent construire. Sans ça, bah, c'est dommage, ça manque un peu du pendant un peu borderline d'Elena. Voilà. C'est quand même vachement mieux que Troublotte, par exemple.
Oui. Troublotte, série que j'ai réussi à arrêter. Moi, c'est mon nouveau thème de la saison, les séries que j'arrive à arrêter.
T'as arrêté après la 5e saison ou t'as arrêté avant?
C'est arrêté au milieu de la 5e saison. Rappelle-toi, c'est toi qui m'avais expliqué lors du dernier podcast qui a eu lieu alors que c'était la canicule et là c'est le froid polaire. Je sais plus, une histoire de démon iranien qui faisait brûler les bébés.
C'était atroce, c'est ça. Et dans le même épisode, on avait.
J'ai fait tomber mon croissant à la vanille dans le truc aux champignons.
Enfin bon, on va pas parler de Troublotte parce que ce serait trop long et puis c'est vraiment.
Donc ça, c'est les séries qui sont pas des nouveautés qu'on regarde encore cette rentrée. Il existe des nouveautés puisque en général, c'est une tradition aux États-Unis en septembre. La plupart des chaînes lancent de nouvelles séries avec l'espoir de créer les nouveaux hits qui vont leur permettre de survivre. Et donc en gros, on regarde à nous trois.
Nashville.
On regarde 3 nouvelles séries. En fait, il n'y en a qu'une qu'on regarde tous les 3.
Oui. American Horror Story, c'est pas nouveau.
Mais... Non, c'est The New Normal.
Ah oui, d'accord.
The New Normal, la sitcom de laquelle tu disais dans le dernier podcast que c'était la série que tu attendais avec le plus d'impatience, puisque. Puisque voir le mariage gay traité par Ryan Murphy en 20 minutes toutes les semaines sur NBC, c'était quelque chose qui te motivait énormément.
Ah, mais j'avais dit ça sans avoir vu aucun épisode.
Alors. Oui.
D'accord. Oui, mais c'est... Bon, c'est un peu dur de dire ça maintenant parce que depuis effectivement 2-3 épisodes, la série... Alors toi, Gégé, tu détestes maintenant.
Non.
Enfin bon, tu es tombé de haut... Moi, c'est non, juste que non, ça s'est mis à m'indifférer un petit peu. Je suis moins impatient.
Moi, j'ai été à fond pendant 10 épisodes. Et peut-être que le 11e, là, ou peut-être que c'est pas le 11e, mais en tout cas, celui qui a été diffusé cette semaine, nous sommes la semaine du 3 décembre. Le lundi, c'est le 3 décembre. C'est un épisode qui était catastrophique de New Normal. Mais sachant que les 10 premiers étaient plutôt drôles et plutôt réussis. Ouais. Sur le sujet, sachant que c'est un sujet un peu casse-gueule, sachant que il faut adhérer au fait que le principe de la série, c'est quand même on va suivre 2 gars qui certes sont homosexuels, mais en gros leur grosse distinction, c'est qu'ils sont plus riches que 99% des gens. Donc effectivement, la nature de leur problème est différente et que s'ils veulent un enfant, c'est facile puisque comme ils ont 2 maisons. Ils peuvent trouver une mère porteuse sans souci puisqu'elle va vivre à côté dans sa petite maison et tout. Ils vont pourvoir à tous ses besoins, ils vont adopter leur fille, en faire la marraine et tout. Ben voilà. Mais c'est vrai, c'est une série qui est relativement drôle avec un couple gay dans une série de network qui est un peu crédible. Sauf ce foutu dernier épisode qui m'a gonflé sur le fait que Ryan Murphy tombe dans les travers de la description des couples homosexuels, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'homme et la femme. Et en gros, là, clairement, le brun, c'est l'homme, puisqu'il aime le foot, en tout cas, il aime les sports collectifs, virils, ses potes, c'est ses collègues de travail, et puis ils adorent boire des bières en regardant des matchs de foot. Et puis d'autres, c'est le gars qui aime la mode, qui aime les fringues, qui aime les comédies musicales et qui aime les cocktails qui sont roses. Et tout le discours de l'épisode qui était centré autour du sexe de leur futur enfant était consternant de rétrogradité, puisque Ségolène Royal, c'est très fier de cette nouvelle expression. Mais c'était consternant, sachant qu'en plus, dans cet épisode, ils abandonnent leurs deux personnages secondaires drôles, c'est-à-dire Nini Leaks de Real Housewives of Atlanta et la blonde qui a dû jouer dans des films de Scorsese. Ouais, et la grand-mère.
Ellen
Burkin. On en parlera, parce que...
Ouais. Et là, d'un seul coup, c'est une espèce de réquisitoire. C'est tout ce que les détracteurs de la série lui reprochaient, c'est-à-dire une espèce de prosélytisme aveugle, pro-adoption par les homosexuels avec des mères porteuses, que je ne ressentais pas dans la série. Je trouvais que c'était plutôt subtil. Et là, effectivement, le dernier épisode, c'était tout ce que... tous les défauts que reprochaient... Ça va être une phrase compliquée. En gros, cet épisode avait tous les défauts qui étaient reprochés à la série depuis le début et que j'avais pas vu.
Mais alors, je suis assez d'accord avec ton constat sur le dernier épisode. Moi, ça m'a moins choqué sur le moment, mais c'est vrai que quand on réfléchit à l'épisode, c'est quand même dans une série qui en plus se veut progressiste, la vision de la différence entre le masculin et le féminin est quand même assez consternante. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'attendait à voir ça sur ABC Family et encore. Je pense qu'ils auraient cherché à tempérer un peu le truc. Après, moi, je trouve que la série, elle fonctionne pas vraiment comme... Enfin, il y a des moments qui sont drôles, mais normalement, je ris rarement aux éclats devant. Pour moi, ça fonctionne plutôt comme un drama de 40 minutes, un peu tourné vers l'humour, qui serait condensé en 20 minutes. Et ce qui fonctionne pour moi, c'est plutôt les trois personnages principaux, c'est-à-dire le couple qui, pour le coup... même s'il y a des moments où ils sont un peu caricaturaux, ils fonctionnent assez bien et ça reste un couple assez attachant ou qu'on a plaisir à retrouver. Et le personnage de, je ne sais pas son prénom, mais la mère porteuse, qui est lui aussi assez intéressant et qui ajoute une
blondie.
Voilà, c'est facile. Par contre, moi j'ai un gros problème avec le personnage de la grand-mère que tu juges être l'un des meilleurs personnages de la série, parce que pour moi c'est vraiment le personnage typique de Ryan Murphy qui... sous couvert d'être dans une série progressiste, sort toutes les horreurs possibles et imaginables pendant 20 minutes. En même temps, c'est censé être drôle, donc on en rigole. Deux minutes après, il y a un autre personnage qui sort quelque chose de beaucoup plus soft, mais qui d'un coup devient...
Mais comme il ne fait pas partie de la famille, voilà, c'est
jugé comme intolérable. Et le personnage de la grand-mère, quand il l'approfondit... Enfin, l'actrice est bonne, il y a des moments où ça fonctionne, mais moi, ça me met quand même assez mal à l'aise d'avoir une série qui en plus se veut très ouverte, qui essaye de me faire rire, non pas du personnage, mais vraiment des gens qu'elle stigmatise dans toutes ses réflexions. Et en 3 minutes, elle va enchaîner une réflexion sur les Asiatiques, les Latinos, les Homos et les Mormons. Enfin, je trouve ça assez maladroit en fait. Après, le reste de la série pour moi est plutôt. C'est une série attachante. Je dirais pas que je suis écroulé de rire devant chaque épisode, mais c'est attachant. Et pour une série de Ryan Murphy, c'est quand même pas mal du tout.
Ma grand-mère, j'ai l'impression que c'est en réponse au fait que tous les autres personnages sont tellement gentils et bonne poire et ouverts d'esprit et bonne patte, pardon. Mais... ça finit toujours en bonne morale, tout le monde s'aime. Finalement, c'est tellement trop dans les bons sentiments qu'on dirait qu'ils se sentent obligés de contrebalancer, mais mal, avec un seul personnage.
Oui, puis je sais pas, il y a des moments qui sont un peu bizarres, parce que par exemple, il y a un épisode où elle a un discours sur l'avortement, qui évidemment est très hostile, et en même temps, elle fait son discours pendant 2 minutes non-stop. Et à aucun moment c'est drôle, et on ne sait pas si on est censé à un moment être du côté du personnage, parce que Ryan Murphy quand même est contre l'avortement, ou si c'est censé être drôle, mais ça fonctionne. Enfin, je trouve que du coup, comme la série aborde en permanence des thèmes politiques ou des thèmes de société, c'est un peu... Enfin, le simple fait d'avoir un personnage qui va dire tout le contraire suffit pas à équilibrer la série. Donc soit il faut qu'ils aient vraiment un discours...
Ouais, tu veux dire qu'en gros le côté militant de la série, parce que clairement il y a un côté militant, oui, qui serait montré, bah voilà, que c'est pas la fin du monde si deux homos ont un enfant avec une mère porteuse, bon, sachant que ils ont quand même abordé la problématique de la mère porteuse dans l'épisode où ils en font des parrains là de la fille et tout ça. Mais effectivement, moi ça me pose quand même de gros problèmes éthiques d'existence. Ben voilà, le fait que ce soit complètement accepté, qu'il n'y a pas de problème qu'une femme, contre rémunération, on utilise son corps pour avoir un enfant. Ah, c'est même tout proche de la prostitution. Mais je pense à la télévision européenne qui...
C'est vrai que la série ne réfléchit pas du tout là-dessus.
La série ne réfléchit pas du tout au concept de la mère porteuse ou quoi que ce soit. Non, c'est plus du tout ce que je voulais.
Ben, on parlait du fait que la série était militante, mais quand même...
Mais militante, mais effectivement, et le personnage parfois de la grand-mère, on s'en moque pas assez. Parfois, on a un peu l'impression qu'elle développe l'antithèse, ouais, de la thèse de Ryan Murphy, et qu'au final, sa thèse à elle est aussi valide, ouais, puisque chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Parfois, la série ne se moque pas assez de la grand-mère, pour montrer qu'effectivement, ouais, les thèses qu'elle défend sont quand même à côté de la plaque.
Ouais, c'est vrai. Et puis effectivement, ça donne un peu la sensation qu'ils veulent équilibrer des fois, alors
qu'il n'y a pas à équilibrer, c'est comme le gouvernement, il n'y a pas à avoir de débat, il n'y a pas à laisser la parole aux cathos intégristes. Voilà.
En même temps, ces personnages ne réfléchissent pas beaucoup. C'est dans les bons sentiments. Je veux dire, je suis d'accord avec
eux. Ouais, non, mais je suis d'accord.
Je suis d'accord avec eux surtout. Mais en même temps, ils forcent tellement les bons sentiments. On est des gens bien qui s'aiment. Oh, toi, je te connais pas, mais tu portes mon enfant, alors je vais accepter ta fille. On est tous une grande et belle famille. C'est tellement...
Non, mais je pense qu'il y a le fait que c'est une série écrite par Ryan Murphy. Donc déjà, à la base... Vu que le résultat n'est pas catastrophique, on est tellement soulagé que bah déjà on se dit, oh, c'est incroyable, l'épisode, j'ai pas eu envie de vomir ou de balancer une pierre dans ma télé, que finalement c'est pas si mal. Et il touche quand même assez juste sur pas les grands sujets où effectivement à coup de grands sentiments il essaye de faire passer la tolérance, ce genre de choses. Mais il y a plein de petits trucs sur les paniers bio, sur le mode de vie des couples homosexuels qui ont un peu d'argent, qui touche juste en tout cas, qui touche juste. Et je sais pas, il y a les scènes où ils sont là avec leur téléphone portable dans le lit. Enfin, j'imagine que ça résonne chez tout le monde, où effectivement, désormais... La première chose qu'on fait et la dernière chose qu'on fait, c'est quand même consulter dans le noir son téléphone avant de dormir. Et la série touche, à mon sens, pour l'instant, plus souvent juste qu'elle ne se ramasse. Et je préfère, New Normal qui essaye, qui parfois est outrancière, parfois abuse des bons sentiments pour faire passer un discours, pour faire passer le discours qu'elle a envie de passer. Une série un peu fadasse ou mais je crois que je développe un attachement à Ryan Murphy assez malsain puisque moi j'aime beaucoup la saison 4 de Glee et j'aime beaucoup American Horror Story en saison 2.
Ouais. Je sais pas ce qui se passe dans ces séries là, mais c'est vrai que The New Normal c'est un peu trop les gentils très gentils d'un côté et les méchants très méchants de l'autre. Ce serait bien de temps en temps qu'ils trouvent un peu plus d'équilibre.
Bah pas forcément, enfin moi ça me dérange pas dans une sitcom qu'effectivement les méchants soient méchants et les gentils soient gentils. Ce qui me gêne c'est qu'effectivement des fois on a l'impression qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent dire ou qu'ils le disent de manière maladroite. Après je veux dire,
oui,
la série
au fond alors
ouais,
ce qui est quand même chouette avec les séries de Ryan Murphy c'est que et c'est pas pour défendre une pseudo-politique des auteurs élitistes ou je sais pas quoi, mais au moins on reconnaît une série de Ryan Murphy, c'est-à-dire que c'est outrancier Mais ça aborde des sujets qui ne sont pas abordés ailleurs. Ça développe des personnages qu'on voit, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a des rebondissements qui fonctionnent parfois. Il y a des tentatives. Il y a des reboots. Enfin, Glee, la quatrième saison, est vraiment très très chouette puisque au bout de 3 ans, les personnages, la moitié des personnages a dû partir ailleurs. Et ils se retrouvent pas miraculeusement tous dans la même université. Ils sont tous éclatés aux différents endroits. On suit plus Rachel et Kurt à New York parce que c'est les deux seuls qui finalement vont s'en sortir. Enfin, je trouve que c'est un chouette renouvellement. Ryan Murphy donne envie de s'intéresser à ces séries puisqu'il tente des choses. Il tente des choses avec sa voix particulière. Tout comme Shonda Rhimes, dont on a dit beaucoup de mal... assez souvent, elle a une voix particulière. C'est assez rare dans les séries télé d'avoir la voix des créateurs. Grey's Anatomy et Scandal cette saison. Enfin, Scandal, on l'a dit avec Drum sur le forum. Enfin, c'est vraiment super. Question conspiration et ce genre de choses. Au moins par rapport à Revenge, mais ça gère d'une façon bien bien meilleure. Et Grey's Anatomy, dans le style série où on a réussi à développer nos personnages principaux sur 9 saisons. Dans le genre où on arrive à faire des vrais cliffhangers, le cliffhanger de la saison dernière a des répercussions encore maintenant. On est au 10e épisode. Ce qui s'est passé dans le cliffhanger de la dernière saison, et la base, il y a eu un accident d'avion avec la moitié du cast qui était dans l'avion. L'avion se crash et il tue 2 ou 3 personnages de la série. Dans une série normale, au bout de 3 épisodes, tout le monde a fait son deuil, on gère, on revient au statu quo comme avant. Là, ce crash d'avion est la base de toute la saison. Puisque là, il va y avoir des poursuites contre l'hôpital, qui va mettre en porte-à-faux plusieurs personnages parce qu'ils couchent les uns avec les autres. Enfin, c'est vraiment cette saison 9 ou 10 de Grey's Anatomy. Et est vraiment chouette d'un point de vue du concept de série télé, c'est-à-dire que on est toujours avec nos personnages, ça fait 200 épisodes qu'on est avec eux, et on arrive à se renouveler. Et j'aime avec Ryan Murphy et avec Shonda Rhimes qu'ils aient une voix, que leur série ait une voix particulière, ce que je ne retrouve pas avec Sean Ryan, le gars qui a fait The Shield, qui a fait Terrier, mais qui a aussi fait Last Resort, là, le truc de ABC avec le sous-marin. Globalement, on ne me dit pas que c'est Sean Ryan qui a écrit le pilote ou qui est impliqué dans la série. J'ai aucun moyen de le savoir. On me dit que c'est le gars qui écrit Le Mentaliste. Je suis prêt à le croire puisque je ne reconnais pas la voix de cet auteur-là dans la série. Voilà. Sinon, Blackie, elle regarde Arrow aussi. On peut parler de ça.
On n'est pas obligé, non.
Je me suis gentiment enflammé tout seul.
Non, mais t'as raison. On peut parler d'American Horror Story, puisqu'on est sur Ryan Murphy. Tu me fais un geste, que veux-tu ?
Parce que je me dis que le micro est là.
Non, en fait, le micro, il est là. Donc, d'accord. Normalement, c'est bon.
Blackie ne regarde pas, parce qu'elle a trop peur que la série la dégoûte. Mais ça, oui. American Horror Story, la saison 2, est vachement bien. C'était vachement bien, et là, c'est depuis 2 ou 3 épisodes un peu plus mollasson. Mais au moins, c'est un peu nouveau. Et
un mini creux, on est au milieu de saison, il n'y a pas de quoi paniquer.
Sachant que la série, effectivement, moi, j'avais pas trop regardé en saison. Enfin, j'avais pas regardé tout de suite en saison 1. Comme j'avais entendu de bons échos, j'avais rattrapé mon retard. Et effectivement, j'avais trouvé ça assez chouette pendant, disons, la première moitié de la saison. Ensuite, ça devenait un peu mollasson, justement. Et la fin de la saison m'avait pas mal déçu parce qu'effectivement, j'avais trouvé un peu facile, même si apparemment, c'était pas un vrai secret de la part de Ryan Murphy de faire soi-disant une série qui, en fait, se révélait être une mini-série qui se terminait chaque saison, où effectivement, oser tuer ses personnages quand on est à un épisode de la fin de la série, c'est un peu plus facile et c'est moins... Voilà. Et du coup, le grain de folie que j'avais trouvé dans la série m'avait semblé un peu artificiel. Du coup, j'avais pas vraiment d'espoir pour la saison 2. Et en fait, c'est pas mal du tout. C'est absolument n'importe quoi. mais c'est du n'importe quoi, servi par des scripts qui fonctionnent assez bien. C'est, enfin, à l'écran, c'est pas si incohérent que ça. Les acteurs sont bons et il y a toujours une ambiance qui est assez. On rentre vraiment dans la série c'est pas forcément terrifiant, mais c'est assez angoissant et ça fonctionne.
Moi, je crois que je serais un peu plus enthousiaste que toi parce que c'est effectivement. On repart à zéro après la première saison, mais on reprend quand même l'esprit de cette saison 1 qui était on va essayer d'empiler un maximum de clichés d'horreur pour essayer de composer une histoire. En saison 1, c'était les fantômes, c'était les meurtres de masse dans les lycées. C'était. C'était quoi? Je sais plus. Enfin, 5-6 légendes urbaines.
Ouais, des monstres.
Qui sont compilées un peu n'importe comment, avec plein de bons acteurs. On voit ce que ça donne. En saison 1, ça fonctionnait à peu près sur la moitié de la saison. Mm-hmm. Il y avait un creux. Et puis, ils se débrouillent à la fin pour boucler tout ça et conclure. Et en saison 2, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va reprendre des thèmes très classiques, mais dont l'accumulation va être originalité, c'est-à-dire qu'on mélange les nazis, on mélange les tueurs en série, les affreux asiles des années 60, les extraterrestres, pas les extraterrestres, les kidnappings par les extraterrestres, tout ça.
Le silence des agneaux.
Le silence des agneaux, et puis... On reprend les acteurs de la saison 1 à qui on fait jouer d'autres rôles. Enfin, je trouve ça assez chouette comme esprit. C'est assez cohérent avec la première saison. Il y a une ambiance un peu différente qui a l'air mieux maîtrisée parce qu'on a l'impression que bah, voilà, ils ont créé le concept au fur et à mesure depuis 15 épisodes. Et voilà, je trouve que c'est finalement ça s'en sort assez bien. C'est assez cohérent. Les épisodes. Ont un thème particulier chacun et fonctionnent bien en unitaire, fonctionnent bien aussi en histoire globale. Les acteurs, enfin, c'est vrai que la troupe d'acteurs qui s'est constituée enfin, est vraiment super. Jessica Lange vraiment très très bonne.
Elle est très bien et elle est dans un rôle complètement différent. Surtout moi, ce que j'aime beaucoup, effectivement, c'est qu'ils ont repris les acteurs dans des rôles complètement différents et c'est assez agréable de voir des gens jouer complètement autre chose et le faire assez bien finalement. Et moi j'avais un peu peur qu'ils nous refassent exactement une redite de la saison 1 avec des personnages qui finalement seraient un peu les mêmes mais dans d'autres situations, et ils ont au moins osé réinventer à ce niveau-là et prendre des risques. Après je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que ils poussent un peu, enfin c'est un peu comme s'ils refaisaient la saison 1 mais en plus maîtrisé. Et je pense en l'assumant un peu plus, parce que malgré tout, dans la saison 1, ils essayaient en permanence de... Ça partait dans tous les sens, mais ils essayaient toujours de dire qu'en fait, c'était tout lié à un même mystère central. Et du coup, ça reposait beaucoup sur le mystère de qu'est-ce que c'était que cette maison, quel pouvoir elle avait. Du coup, à mesure qu'on découvrait que le mystère, c'était juste que c'était une maison hantée dans laquelle les gens ne mouraient pas, bah, ça perdait beaucoup d'intérêt et on était beaucoup moins angoissés. Là, j'ai l'impression que, clairement, les aliens, le démon, les monstres nazis, ils n'ont aucun rapport entre eux. Et les scénaristes s'amusent juste à se dire, bah, et si, dans un film d'aliens, il y avait aussi le diable qui avait pris possession d'une bonne sœur et qui se retrouvait à faire sa propre magouille dans son coin. Et
du coup, si on mélangeait l'Exorciste, X-Files, quoi d'autre il n'y a pas eu beaucoup de films sur les asiles.
Le vol au-dessus d'un nid de coucou.
Vol au-dessus d'un nid de coucou.
La liste de Schindler ou un truc. Non,
oui, c'est ça. Voilà, ouais.
Le journal d'Anne Frank aussi, puisque Anne Frank fait partie des...
Anne Frank est un personnage.
Vachement bien.
Et c'est surprenant. Et quand même, sur tout ce qu'il y a eu à la rentrée, on a quand même réussi à parler de Ryan Murphy pendant un bon tiers de ce qu'on est en train de faire. Écoutez, on va faire une mini-pause, donc ce qui va nous permettre de couper ce podcast en deux parties, ça va être plus pratique pour le poster. Et puis, on revient avec Arrow et Nashville, où Blackie va vous expliquer pourquoi elle s'attache à des séries nulles. Et après, on vous dira quand même qu'il y a d'autres bonnes séries qui ne sont pas diffusées en ce moment, mais qu'il faut absolument regarder.